Merci à tous les deux. Une affaire de principe sort mercredi prochain au cinéma et c'est un film d'Antoine Rimbaud. Il y a notre ami Thomas VDB qui joue un chouette gars dans ce film. Merci à tous les deux.
Et merci journée. Sonia de Villers. Et merci à vous de nous rejoindre sur Inter. Il est 8h. Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, un grand discours sur l'Europe. À un mois et demi des élections, Emmanuel Macron entre en campagne tout à l'heure face à une extrême droite puissante, mais toujours divisée au Parlement, on va l'entendre. La une, c'est aussi le Monde qui demande à comprendre ce qui s'est passé dans deux hôpitaux de la bande de Gaza où des charniers ont été découverts, témoignages recueillis sur place dans un instant. Leurs cheveux longs sont des antennes cosmiques. Nous serons au procès de six anciens cadres de la secte de la Grande Mutation. Sur les côtes du Var, aussi menacées par l'érosion, le département tente des solutions pour protéger son littoral. Et puis au Châtelet, où se préparent les flammes ou victoires des musiques actuelles. Qui est votre invité, Nicolas, à 8h20?
Eh bien, on va le demander à Léa Salamé, qui est avec nous en studio. Bonjour Léa.
Bonjour Nicolas et bonjour à tous.
Et donc, 8h20.
Elle ne s'est pas exprimée devant un micro depuis la disparition de son mari, Robert Badinter. Elle revient avec un nouvel essai. Messieurs, encore un effort. Contribution à la réflexion intellectuelle sur la place de la femme et de la mère dans la société. L'historienne et philosophe Elisabeth Badinter est notre invitée à 8h20.
France Inter.
En short et crampons pour un match caritatif avec le Variété Club de France, Emmanuel Macron a marqué un but sur pénalty hier à Poissy. Le terrain sur lequel il s'apprête à entrer aujourd'hui en costume cravate paraît beaucoup plus lourd et incertain, terrain politique, dimension européenne. Coup d'envoi à 11h pour ce nouveau discours de la Sorbonne. Le précédent date de 2017, un appel à l'unité et à la souveraineté européenne. À quoi ressemblera le propos du jour? Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Ça n'est pas un meeting, mais à un mois et demi des élections, c'est une entrée en campagne.
Oui, président et candidat, comme en 2022, c'est le jeu des costumes, taquine un ministre. L'Élysée promet un discours institutionnel pour dessiner l'UE à 5, 10, 15 ans, avec pour slogan « L'Europe puissance, ne pas abandonner la bagarre avec Chine, Inde, États-Unis, Russie, se défendre, s'armer, produire, investir ensemble ». On va peut-être, comme en 2017, dire dans certaines capitales que c'est irréaliste, admet son entourage, mais à la fin, tous le remercieront. Du plan de relance à la réforme des travailleurs détachés, des vaccins anti-Covid au pacte vert, du soutien militaire à l'Ukraine à la régulation du numérique jusqu'au pacte asile et migration. Emmanuel Macron veut prouver que 7 ans plus tard, son premier discours de la Sorbonne a été suivi des faits. Il a, comme dirait l'Élysée, infusé.
Et au-delà du discours bilan et perspective, Maxence, quel est le but recherché?
Au sein du gouvernement, on estime que ce sera la bascule de cette campagne, le point de départ. Pour l'instant, les Français savent à peine qu'il y a une élection. Tous comptent sur ce discours pour mobiliser un électorat qui manque d'enthousiasme, résume pudiquement une ministre. Réveiller son camp, donc, et prendre un peu de hauteur en évoquant les enjeux européens. C'est le paradoxe du jour, analyse un député de la majorité. On a besoin de lui, pour cela il est le meilleur. Et en même temps, sa présence nationalise le scrutin, donne du souffle à nos adversaires. Chaque tête de liste, ou presque, a en effet déjà prévu sa conférence de presse cet après-midi pour lui répondre point par point.
À commencer par Jordan Bardella, merci Maxence Lambrecq, tête de liste RN à 32% d'intention de vote selon la dernière enquête Ipsos Radio France. La liste de Valérie Ayer pour la majorité en récolte deux fois moins. L'extrême droite arrive en tête des sondages dans 4 des 6 pays fondateurs de l'Union Européenne. Elle devrait donc progresser en nombre de sièges et les nationalistes se rêvent plus puissants malgré leur division matérialisée par deux groupes distincts au Parlement. Reportage à Strasbourg, signé Elodie Forêt.
Pour accéder au bureau du RN, un dédale de couloir.
Au bout du bout,
ironise ce collaborateur, comme si le cordon sanitaire se matérialisait. Un cordon qui jusque-là a empêché le parti français et ses alliés d'obtenir des postes qui comptent. Jean-Paul Garot, président de la délégation RN.
Nos adversaires se sont ligués entre eux pour voter contre systématiquement, parce que c'est nous.
Réunis pour la dernière fois, de nombreux alliés du RN rêvent donc de faire tomber les murs. Vieille arlésienne, l'idée d'un grand et puissant groupe nationaliste fait son retour. Gerolf Hanmans, eurodéputé flamand du Vlaams Belang.
Former un nouveau groupe plus grand, il y aurait beaucoup plus d'influence le cas échéant. Nous sommes ouverts à tout.
Un seul grand groupe, loin d'être gagné, tant le bloc est hétérogène, divisé sur la Russie, sur l'OTAN. Le RN notamment n'a pas toujours bonne presse. Leur logique, c'est moins ils en font, moins ils font de faux pas, confie une source interne du groupe ID. Jugement sévère aussi de certains députés ECR, l'autre groupe nationaliste, comme la Belge Assita Kanko.
Honnêtement, il y a un groupe politique en particulier qui ne fout rien. Et moi, je suis rapporteur de la loi antiterrorisme qui sera votée demain. Je ne les ai pas vus une seule fois pendant la négociation.
Mais dans un Parlement où tous ces partis vont progresser, qu'ils s'accordent ou non, leur influence va grandir, soupire un député de gauche qui s'emploie d'ores et déjà à prévenir les lobbies. Vous ne pourrez plus vous boucher le nez. Il faudra bien parler à l'extrême droite.
Élodie Forêt à Strasbourg, où Raphaël Glucksmann donnait meeting hier soir pour la liste socialiste. On l'a entendu dans le journal de 7h30. Et puisqu'on est en Europe, l'Espagne va-t-elle garder son Premier ministre ? Pedro Sanchez se donne jusqu'à lundi pour réfléchir et peut-être démissionner. Après l'ouverture d'une enquête contre sa femme pour trafic d'influence et corruption, il dénonce une campagne de harcèlement contre son épouse. La plainte émane d'un collectif d'extrême droite.
Il est 8h06. Que s'est-il passé dans les deux principaux hôpitaux de la bande de Gaza ?
La Maison Blanche veut des réponses. L'ONU demande une enquête internationale comme l'Union Européenne après la découverte de fosses communes dans l'enceinte de l'hôpital Nasera à Khan Younes. La défense civile de Gaza dit avoir exhumé 340 corps. Voici le récit de Thibault Lefebvre avec les témoignages difficiles recueillis sur place par Youssef Kilani.
Une femme est assise au sol. Devant elle, deux corps dans des sacs mortuaires blancs recouverts de fleurs. Elle porte un masque chirurgical et parle au téléphone à son père.
On a retrouvé la dépouille de mon frère Mounir. Que Dieu ait pitié de son âme. Viens, papa, et apporte du parfum.
La maman, éreintée, les yeux cernés, interrompt la conversation.
Je l'ai reconnu. C'est le cœur d'une mère qui parle.
La dépouille de Mounir a été retrouvée au milieu de plus de 300 cadavres autour de l'hôpital Al-Nasser de Khan Younes. Depuis le retrait des troupes israéliennes de la ville le 7 avril, des dizaines de familles cherchent les corps de leurs proches. Le docteur Ahmed Moghrabi était dans l'établissement jusqu'au 15 février.
Pendant deux ou trois semaines, l'hôpital était en état de siège et les gens ont enterré les corps à l'intérieur de l'hôpital.
Les familles de victimes accusent aujourd'hui l'armée israélienne d'avoir déterré les cadavres pour effectuer des prélèvements ADN, puis de les avoir jetés dans des fosses communes. Dans un communiqué, l'état-major reconnaît avoir cherché des otages parmi les dépouilles, mais nie avoir déplacé les corps. Selon le Hamas, des cadavres ont été retrouvés pieds et mains liés. L'état hébreu dément.
Thibault Lefebvre à Jérusalem avec les témoignages de Youssef Kilani à Gaza. Hier, le Hamas a diffusé une vidéo d'un des otages israéliens détenus depuis le 7 octobre, Hersh Goldberg Paulin, 23 ans, enlevé lors du festival de musique Nova dans le sud du pays. 61 milliards de dollars pour l'Ukraine et des missiles, pas n'importe lesquels. Les États-Unis annoncent la livraison d'attaques MS, des missiles à longue portée. Les premiers sont déjà arrivés discrètement il y a quelques jours. Un pas de plus franchi dans l'aide militaire à l'Ukraine. Étienne Menin, ce pourrait être un tournant dans la guerre.
Cette arme était demandée avec insistance par les Ukrainiens. Elle peut être déterminante. Elle devrait permettre à l'armée de frapper les bases arrières russes. La portée est de 300 km. Une première version bridée à 165 km avait été livrée. Avec cette nouvelle version, les Ukrainiens peuvent notamment espérer toucher le pont stratégique de Kerch qui relie la Crimée au territoire de Russie. C'est un changement majeur dans la politique américaine. Jusqu'à présent, Joe Biden s'était opposé à l'envoi de ce type d'armes, mais l'utilisation répétée par Moscou de missiles balistiques et le ciblage ces derniers jours des infrastructures critiques en Ukraine ont convaincu les Américains qu'il fallait rééquilibrer les forces. Un premier lot a déjà été livré la semaine dernière. Le président Biden a approuvé secrètement la livraison de 100 missiles longue portée il y a deux mois d'après le New York Times. Deux d'entre eux ont déjà servi. Ils ont visé les forces russes en Crimée et dans le sud de l'Ukraine.
Étienne Monin, l'Ukraine qui fait tout décidément pour faire rentrer les hommes en âge de combattre. Kiev annonce que plus aucun passeport ne sera délivré à l'étranger à ceux qui ont entre 18 et 60 ans. Anatomie d'une d'une secte au tribunal de Paris, la grande mutation dont le gourou fondateur ancien du CNRS disait avoir parcouru 22 planètes avant de revenir sur Terre pour sauver les hommes. Mort en 2018, ce sont donc 6 de ses lieutenants qui sont jugés depuis hier pour abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine. Charlotte Pirret, la cour a commencé par entendre d'anciens membres de la grande mutation et leurs familles.
Pendant 7 ans, Dominique a été adepte de la grande mutation, fasciné par son gourou, ancien chercheur au CNRS, qui expliquait son handicap dû à un accident de moto par le fait qu'il avait retourné le canal cosmique. Dans ce mouvement où le monde était divisé en deux races et toute décision prise en fonction d'un pendule, Dominique a même tenté d'embarquer son fils, Robin, dans un premier temps mis en confiance par le statut des cadres de la grande mutation.
En tout cas, ils se présentaient comme des scientifiques, des chercheurs. Et il y a une période de séduction. Ces gens-là nous disent qu'on a quelque chose de spécial, qu'on est à part, qu'on est des êtres de lumière, que sais-je encore. On est mis dans un premier temps en valeur et progressivement on nous enlève tout esprit critique en fait.
Et cette mécanique, Victor l'a vécue d'encore plus près en assistant à plusieurs réunions collectives alors qu'il était adolescent.
Quand il y a des personnes qui posaient des questions, on leur faisait comprendre par des rires un peu gentils, faussement gentils, qu'ils comprendront, mais plus tard. C'est la pire chose en fait pour eux. Quelqu'un qui fait preuve d'esprit critique, donc il tourne ça en dérision, de manière à ce qu'il y ait une telle pression dans le groupe que personne n'a envie de se distancier des autres, d'être à la ramasse et de perdre le message en fait.
Dans la salle, les prévenus aux longs cheveux en guise d'antenne cosmique, selon eux, ces cadres du mouvement sont restés impassibles lors des témoignages de victimes. Les premiers doivent s'expliquer à la barre cet après-midi.
Charlotte Pirret, pas de grève des contrôleurs aériens finalement, mais une gigantesque pagaille tout de même dans le ciel français et européen où les plans de vol n'ont pas eu le temps de changer. Trois quarts des décollages et atterrissages supprimés à Orly aujourd'hui, plus de la moitié à Roissy et Marseille. Et 45% ailleurs en France, selon les témoignages recueillis ce matin, tous les passagers n'ont pas été prévenus de l'annulation de leur voyage. Plus visible au travail, les employés LGBT+ bénéficient aussi de davantage de bienveillance. Enseignement encourageant du dernier baromètre de l'association L'Autre Cercle, qui œuvre en faveur de l'inclusion des lesbiennes, gays et trans au travail. Subsistent des points noirs. 3 personnes LGBT+ sur 10 déclarent avoir été victimes d'au moins une agression dans leur entreprise. C'est le cas de Jean qui s'est confié à Mariam El Kurdi.
Jean, 30 ans, était chargé d'animer les réseaux sociaux dans son ancienne boîte.
Alors moi je suis un homme gay, j'ai une expression de genre assez fluide. Je peux aller au travail en portant du maquillage, de l'eyeliner.
Pas de code vestimentaire spécial chez cet employeur dont il croyait l'esprit ouvert. Une jeune petite entreprise qu'il a fini par quitter après des agressions verbales répétées de la part de sa responsable.
Chaque fois, elle me reprenait sur des éléments de mon physique qui faisaient référence à mon expression de genre. Elle faisait des remarques sur les colliers que je portais. En fait, c'était beaucoup de micro-agressions. C'était pesant.
Après son départ, cette chef est licenciée pour harcèlement et discrimination, poursuit Jean, qui depuis a retrouvé du travail.
Depuis, l'entreprise s'est remise en question, elle a mis en place une politique de diversité et d'inclusion. Mais voilà, il a fallu que je dénonce pour que cela arrive.
Comme lui, une personne LGBT+ sur 3 affirme avoir été victime d'au moins une agression dans son entreprise, d'après l'association L'Autre Cercle. Parfois des insultes, dénonce sa porte-parole Catherine Tripon.
On est quand même en 2024. C'est-à-dire que traiter quelqu'un de PD ou de Gwyn ou de Travelot, désolé, pas sur le lieu de travail. Il y a des règles à respecter. Quand il y a un propos, un comportement déplacé, il faut sanctionner. Si votre manager proximité ou vos collègues ne réagissent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de climat inclusif.
Près de la moitié des gays, lesbiennes ou trans n'osent pas le dire au travail, alors qu'être soi-même, c'est essentiel pour l'inclusion et le bien-être, insiste aussi l'association.
Mariam El Kurdi, le quartier de Pigalle à Paris n'a plus tout à fait la même physionomie ce matin. Les ailes de l'emblématique Moulin Rouge sont tombées dans la nuit sans faire de blessés, mais la devanture est endommagée. Les lettres mou de Moulin Rouge ont été arrachées. Plus grave, ces terrains qui s'effondrent, ces plages qui disparaissent, ces maisons qui tombent. 20% du littoral français est grignoté par l'érosion côtière. Selon le centre d'études et d'expertise CEREMA, plus de 5000 logements seront concernés d'ici 2050, dont plus de 400 dans le Var. En première ligne, le département François Ventéjou tente donc de trouver des solutions pour préserver son littoral.
Sur cette plage de hier, exposée au vent, la mer gagne du terrain plusieurs dizaines de centimètres chaque année.
Après chaque tempête, en fait, on constate qu'inexorablement, le trait de côte recule.
Yves Lacroix est enseignant-chercheur à l'Université de Toulon. Il montre les clôtures en bois installées pour ralentir le phénomène.
Elles sont là pour essayer de piéger les sédiments qui sont emportés par le vent. Il y a une part de l'érosion qui est due au vent.
Pour le reste, il faut agir en mer et là, à chaque collectivité, sa technique. Dans le golfe de Saint-Tropez, des géotubes viennent d'être posés au fond de l'eau à 80 mètres du rivage. Vincent Maurice est le maire de Sainte-Maxime.
On voit une tache brune. Ce sont des tubes en textile remplis de sable qui forment des boudins de 3,5 mètres de diamètre et qui visent à lutter contre le retrait du sable pour pas que la mer le capte et l'aspire avec elle, et également lutter contre la houle de fond.
Une installation coûteuse, plusieurs millions d'euros, mais qui ne pourrait pas être efficace sur tout le littoral. Gilles Vincent est le vice-président en charge de l'environnement à la métropole de Toulon.
Comme on dit, au cas par cas, ça dépend aussi des courants. Il y a des endroits où on n'aura pas d'autre solution que de mettre en place des solutions dures, c'est-à-dire des murs en béton. Et en tous les cas, il faudra qu'on regarde quel est l'impact sur l'environnement d'à côté.
Une lutte contre l'érosion que cet élu compare au mythe de Sisyphe.
François Vanté joue dans le Var, où nous attend Jérôme Cadet pour un 13-14 en résidence, si j'ose dire, au Lavandou. Le PSG va devoir attendre. Monaco a retardé son sacre en battant Lille 1-0. Les Parisiens auraient sinon été champions dès hier soir après leur victoire 4-1 à Lorient. Ce sera chose faite samedi si Paris bat le Havre. On suppose que les bouteilles de champagne sont déjà commandées. Ce sont les victoires du rap, du R&B, des musiques africaines et caribéennes. Les flammes auront lieu ce soir pour la deuxième année à Paris, au Châtelet. Pas encore une institution, mais presque. Mathieu Culeron, il y aura du très beau monde sur scène.
Je vais crier le bordel dans le tunnel, j'ai dû couper les ponts.
Après le succès d'une première version au Théâtre du Châtelet, la cérémonie des flammes revient avec la plupart des stars du top 50. Et pour cette édition 2024, tout le monde veut en être, comme le confirment Ahmad et Tom, producteurs des flammes.
Il y a beaucoup d'attentes. Tout le monde veut participer, tout le monde veut être là, tout le monde veut être dans le Châtelet. Bon, il n'y aura pas assez de place, mais bon.
Les Tiako, les Gazo, les Warrenois, etc. Ils sont tous présents dans différentes catégories. Ils n'ont pas eu tous la même année. Il y en a qui ont sorti des albums, d'autres des albums communs, d'autres pas d'albums, etc. Donc, mais c'est vrai que ça a été une année prolifique, on va dire, en 2023. Il y a eu beaucoup de sorties d'albums.
Les Flammes qui ont plus que doublé leur nombre de votants, passant de 130 000 à plus de 280 000. Et pour rendre la cérémonie encore plus populaire, une partie des concerts aura lieu sur le parvis du Théâtre du Châtelet. Ahmad, coproducteur des Flammes.
En fait, on aura un pré-choix en extérieur qui accueillera du public et il y aura des performances aussi en extérieur. Ça pourra pallier au problème du public, parce que l'année dernière, c'est vrai que c'est un des retours qu'on avait eu, qu'il y avait beaucoup de gens de l'industrie dans le théâtre, mais pas beaucoup de public. Et là, pour le coup, on va y remédier.
Reine de la soirée, Aya Nakamura est nommée dans 6 catégories cette année. La chanteuse qui pourrait rentrer sur l'hymne à la joie d'Edith Piaf lors de cette deuxième édition des Flammes au Châtelet. Mais
comment ça ? Les Flammes à suivre dès 21h ce soir en direct sur YouTube, sur Twitch, mais aussi à la télé, donc la bonne vieille télévision W9.
Merci Florence Paracuello. S'il réalise son premier film, Un petit truc en plus, qui sort la semaine prochaine, le comédien Artus est l'invité de Léa Salamé à 9h20. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur Euromaster.fr.
Et le ciel est souvent nuageux dès ce matin, Marie-Pierre.
Et oui, Nicolas, on a toujours ces dépressions qui se succèdent. Une qui va arroser le nord-nord-est et une autre sur le golfe de Gascogne qui apporte du sud-ouest jusqu'aux Pyrénées ce matin. Des pluies s'étendant jusqu'à la région toulousaine au massif central où il neige également à 1000 mètres d'altitude en remontant vers la Loire. Et dans le même temps, on a la perturbation scandinave qui donne des averses près des côtes de Manche jusqu'aux frontières belges et allemandes, avec de la neige sur les Vosges à 600 mètres. Entre les deux, mais hein, de la Normandie à l'Île-de-France, à la Vendée, au Val-de-Loire, le ciel hésite entre éclaircies et soleil. En revanche, c'est très ensoleillé sur le sud jusqu'aux Alpes, à la Corse, sous le vent. Et on a les dernières gelées aujourd'hui sur l'Est et le Nord-Est, comme à la Motte du Caire dans les Alpes de Haute-Provence où il fait moins 5, moins 2 à Rueil, la Gadelière. En général, il fait 3 au nord et 6 dans le sud.
Et encore plus de pluie cet après-midi.
Et oui, les averses vont glisser davantage sur pratiquement toutes les régions et seules les régions de l'Île-de-France à la Franche-Comté, aux Alpes, au pourtour méditerranéen. Là, le soleil va résister avec quand même quelques ondées possibles sur les Alpes du Sud et la Corse, avec un mercure en hausse, mais on sera encore 3-4 degrés en dessous des normales de saison. Vous n'aurez pas plus de 10 à Langres. Vous allez gagner 4 degrés à Tours avec 15 degrés, comptez 13 au Havre, 14 à Paris comme à Lille. Vous aurez 15 à Lyon comme à Nantes, 18 à Toulouse et Montpellier, en se rappelant, Nicolas, que caprices d'avril font tomber les fleurs et trembler les laboureurs.
Là, on le retient, celui-là. Oui. On le retient bien, on le note. Merci Marie-Pierre, il est 8h19.
Sur France Inter.
Géopolitique, bonjour Pierre Rassi.
Bonjour Nicolas.
Il y a 50 ans, jour pour jour, le Portugal vivait la révolution des œillets.
Prendo la Vila Morena, terra da
fraternidad.
Il est minuit 20 à Lisbonne, ce 25 avril 1974, lorsque la chanson interdite « Glandola Villa Morena » retentit sur les ondes de la radio catholique. C'est le signal qu'attendaient les putschistes pour passer à l'action. En quelques heures, il y a 50 ans, la plus vieille dictature d'Europe tombée, le régime instauré en 1933 par Antonio Salazar, s'écroulait face au mouvement des forces armées, un collectif d'officiers décidé à en finir avec les guerres coloniales. C'est en Afrique que la dictature a scellé son sort, pas au Portugal, où sa police politique empêchait toute contestation. En Guinée-Bissau, en Angola ou au Mozambique, le Portugal a voulu ignorer le vent de la décolonisation. Ces guerres coloniales ingagnables ont produit leurs plus étonnants résultats, la révolution des œillets, la démocratisation de la métropole.
Mais pourquoi est-ce parti d'Afrique ?
Il faut lire, Nicolas, les lettres d'Angola que le futur écrivain Antonio Melo Antunes a écrit à sa femme alors qu'il servait comme médecin militaire dans la principale colonie d'Afrique au début des années 70. On y comprend l'expérience de la vie et la désillusion rencontrée par les jeunes officiers envoyés se battre contre des guérilleros dont ils comprenaient les motivations. Pour certains officiers, ce fut même le lieu de leur conversion à des idées marxistes, bannies par leur régime, mais qui imprégnaient en ces temps de guerre froide les principaux mouvements nationalistes. Cette politisation se reflétera dans la révolution des œillets. Cette révolution mettra au moins 2 ans avant de se stabiliser entre tentatives de récupération de la droite néocoloniale ou d'extrême-gauche rêvant de soviets, avant de transformer le Portugal en une démocratie compatible avec le reste de l'Europe occidentale. Le Portugal rejoindra d'ailleurs la communauté européenne avec l'Espagne post-franquiste en 1986.
Alors dites-nous, Pierre, que reste-t-il de cette révolution ?
Alors il y a d'abord une relation toujours forte avec l'Afrique lusophone, malgré une décolonisation précipitée et bâclé. Pays le plus pauvre d'Europe occidentale, le Portugal était une puissance coloniale anachronique. Ça lui a permis d'échapper à la tentation néocoloniale. Il n'en avait guère les moyens. Mais c'est d'abord dans la construction d'un pays moderne que le Portugal a légitimé sa révolution, qui fait aujourd'hui consensus. Il n'y a guère de nostalgique du salazarisme. Et si l'extrême droite a fait une percée électorale, c'est que le Portugal rejoint la norme européenne. Aucun pays n'y échappe. Il est remarquable qu'en un demi-siècle, ce pays soit passé de dictature archaïque à destination touristique cool, de terre d'émigration à pays envié. Malgré la crise de la dette il y a 15 ans, malgré les prix de l'immobilier et les incertitudes climatiques, le Portugal s'est normalisé au bon sens du terme et il le doit d'abord à une poignée d'officiers revenus en colère de la brousse africaine.
Pierre Aski, merci. Dans un instant, c'est le grand entretien de la matinale avec Elisabeth Badinter.
Ce samedi sur Inter, la radio de...
Alors moi, évidemment, vous m'avez entendu peut-être faire des sketchs sur France Inter depuis quelques années. C'est Thomas VDB qui vous parle et c'est ma radio.
Pendant une heure, les artistes partagent la playlist de leur vie.
Ben c'est moi qui gère la programmation. Je vais pouvoir mettre tous les morceaux que je veux, les albums qui me mettent des tartes dans la tête aussi.
La radio de...
La radio de Thomas VDB.
C'est ce samedi sur Inter à partir de 21h.
Et j'espère que vous allez m'envoyer plein de mails en me disant hey, « t'as vraiment des goûts géniaux, Thomas VDB ».
Il est 8h23.
France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin une historienne et philosophe pour la publication de son nouveau livre intitulé « Messieurs, encore un effort » publié aux éditions Flammarion Plomb. Elisabeth Badinter, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin pour parler de ce nouvel essai « Contribution à la réflexion intellectuelle sur la place des femmes et des mères dans la société contemporaine ». Nous allons en parler longuement, mais avec Léa, nous tenions d'abord à vous dire combien nous sommes touchés de vous recevoir ce matin. C'est votre première intervention dans un média depuis la disparition de votre mari, Robert Badinter. Une disparition qui nous laisse, nous, et qui laisse sans aucun doute des millions de Français orphelins. Ça, nous voulions vous le dire et vous demander comment... vous avez reçu la ferveur, mais aussi l'attachement du pays à Robert Badinter lors de l'hommage national qui lui a été rendu.
Je l'ai reçu avec une certaine forme d'étonnement et surtout, le mot qui me vient d'abord, c'est avec reconnaissance. Et
Pourquoi reconnaissance et pourquoi étonnement ?
Étonnement parce que Robert était assez discret, que c'était un très vieux monsieur, que on ne sortait pas du tout de chez nous. C'était un peu étonnant après des années souvent difficiles pour lui. Donc voilà, c'était l'étonnement, c'était qu'au fond tant de gens se souviennent de ce qu'il avait fait. On oublie vite aujourd'hui, vous savez. Mmh. Et donc, voilà, c'est la raison de l'étonnement. Mais la reconnaissance est immense. Je ne peux pas vous dire à quel point le fait de recevoir des messages, des longs messages, souvent très émouvants, c'est absolument bouleversant. Et j'ai envie de dire merci, merci, merci. Voilà.
Mmh. Et vous avez tout un tas de maires qui veulent faire des rues, des avenues, Robert Badinter, partout. On vous demande des hommages partout, tout le temps.
Oui.
Bah, parce qu'il était, une des dernières consciences. Il était.
C'est vous qui jugez.
Il était la République, il l'a dit, Emmanuel Macron.
Oui. Bon. Oui. Je n'ai pas, moi, de commentaire à faire là-dessus.
Juste encore un mot, et avant d'arriver à votre livre important, vous vous êtes mariée quand vous aviez 22 ans.
Oui.
Elisabeth Badinter, vous avez eu 57 ans de mariage avec lui, ce qui est colossal. Comment vous allez aujourd'hui qu'il n'est plus là ?
Le moins mal possible, mais je ne vous en dirai pas plus.
Et on le comprend parfaitement.
Alors venons-en à ce livre. Messieurs, encore un effort. Il résonne comme une injonction faite aux hommes. On va en parler. Son sujet, vous vous attaquez à la baisse structurelle du taux de natalité en France et en Europe qui ne cesse de s'accentuer ces dernières années. La France n'y échappe plus depuis le Covid, alors que pendant longtemps, il y avait en la matière une véritable exception française. Dites-nous pour commencer ce qui vous a poussé à écrire, à travailler sur cet implacable constat de la dénatalité qui touche tous les pays en Occident.
Ce qui m'a poussé, si vous voulez, à écrire quelque chose très vite, c'était l'année dernière, c'est que j'ai ressenti un vrai danger pour les libertés des femmes, pour la maîtrise de leur corps. Parce qu'en fin de compte, en dernier ressort, c'est quand même elle qui décide. Par conséquent, si ça continuait, si la natalité continuait à baisser au rythme où nous l'avons vu entre 2010 et aujourd'hui, je pense qu'on finira, ou on finirait plutôt, j'espère, par interroger les femmes et faire des pressions sur elles. C'était la première réaction. Et puis, en même temps, deuxième réaction, j'ai été aussi intéressée par le conflit possible entre deux légitimités. Je veux dire, première légitimité à mes yeux, c'est de protéger à tout prix les libertés de la femme, respecter absolument ses désirs concernant la natalité ou pas, et en même temps reconnaître les devoirs d'un État pour que maintenir une certaine forme de croissance pour pouvoir payer les retraites. Enfin, d'une certaine façon, si ça continuait, je n'en sais rien. Mais il y a aussi une question de survie de l'État et de mode de vie. Mmh. Voilà. Donc, il y avait les devoirs de l'État et en même temps les droits des femmes et que j'ai imaginé que peut-être ces deux légitimités pourraient rentrer en conflit.
Ce livre résonne en tout cas comme un prolongement de votre essai qui fut un choc, un événement en 1980, L'amour en plus, une histoire de l'amour maternel, un livre qui a contribué par le biais de l'analyse historique à démonter les clichés qui entouraient l'amour maternel, l'instinct maternel, bref, à séparer, comme vous le dites, dans le livre d'aujourd'hui, 45 ans plus tard, la femme de la mère. Mais aujourd'hui, vous faites ce constat, les femmes sont parvenues à se libérer ces dernières années, la révolution féministe a été là, il y a eu MeToo, mais les mères restent très contraintes. Vous pointez ce paradoxe, la libération de la femme ne libère pas la mère au XXIe siècle. Expliquez-nous pourquoi.
Eh bien, pour plusieurs raisons, mais notamment parce que la révolution féministe qui naît en, en 1970, dans les années 70-2000, est très active. Il y a Simone de Beauvoir, il y a des féministes, le MLF, etc. Et qui inclinent les jeunes femmes à être indépendantes professionnellement, d'être libres de leurs choix, etc. Et le fait est que ça a très bien marché pendant une trentaine d'années, c'est-à-dire professionnellement, ça a avancé de façon quand même significative l'égalité entre hommes et femmes, même si les salaires sont pas toujours, du côté de l'égalité. Mais quand même, il y a eu des progrès inouïs. Et puis, un frein est apparu, où on en a pris conscience, je dirais, dans le début des années 2000, tout d'un coup, les signaux d'égalité sont devenus de plus en plus lents à évoluer. Et la raison en est, finalement, qu'il reste une inégalité entre hommes et femmes que nous n'avons pas surmontée. Mmh. Et cette inégalité, elle est difficile à combattre parce qu'elle concerne l'intimité du couple, l'intimité des familles, et c'est le fait que si les femmes sont capables, et elles le montrent tous les jours, d'être aussi efficaces et aussi bonnes professionnellement, à l'intérieur de la famille, au sein de la famille, eh ben, il reste une inégalité sur laquelle on a beaucoup de mal à agir. Mmh. Je veux dire, je ne peux pas imaginer un instant qu'on fasse des lois punissant de je ne sais pas quoi.
Parce qu'on ne fait pas le ménage, l'homme ne fait pas le ménage, voilà. Ou ne met pas la machine
à laver. Exactement, ne partagent pas le monde privé, intime, de la famille, de la maison, à l'égal de ce qu'on peut espérer professionnellement.
Voilà, vous le dites, Elisabeth Badinter, les inégalités salariales persistent, les tâches ménagères et parentales sont encore mal réparties, la charge mentale, concept que vous reprenez, reste du côté des femmes. Donc le féminisme s'est démocratisé, comme le disait Léa, il y a eu MeToo, mais quand on regarde les chiffres, les faits, le réel, l'égalité est dans les discours, mais pas dans la vie réelle.
MeToo, ça concerne principalement, je dirais, le respect des femmes, sexuellement, et ça touche particulièrement les violences sexuelles. Bon, c'est une part de l'inégalité des sexes, mais dans le quotidien de tout le monde. Si on y réfléchit deux secondes, pour les femmes, la vie quotidienne, quand elles sont à plein temps, et c'est de plus en plus le cas, et quand elles sont à plein temps et qu'elles vivent avec leur compagnon, c'est le moment où on est au plus proche de l'égalité. Chacun partage à peu près les charges du quotidien, de la maison, du ménage, etc. Donc, et en général, ce sont les classes moyennes qui sont en tête de ça. Bon, quand l'enfant paraît, quand l'enfant paraît, tout change. Tout change pour les femmes, parce que elles continuent à assumer la plus grosse charge, la plus grosse responsabilité et la plus grosse culpabilité, parce qu'elles elles sont en ce moment particulièrement, et c'est ce qui me frappe beaucoup, l'objet de deux obligations, si j'ose dire. La première, c'est que on nous a inventé une nouvelle éducation qui vient des psychologues.
L'éducation positive.
Oui, bienveillante.
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 Dont vous parlez dans ce livre, et d'ailleurs, vous prenez clairement dans ce livre parti pour la pédopsychiatre qu'on a beaucoup entendue sur France Inter cet été.
Caroline
Goldman.
Exactement. Parce que si on y réfléchit deux minutes, le problème est le suivant. Dès lors que vous pouvez ne pas avoir d'enfant, avec la contraception et la possibilité de l'avortement, ça veut dire que vous choisissez d'être mère, de mettre un enfant au monde, et donc vous êtes mentalement dans l'idée que vous lui devez tout. Vous étiez pas, on n'est pas obligé. Et donc quand on choisit d'avoir un enfant, et il naît comme ça, peu à peu, l'idée qu'il faut être la mère parfaite. Mmh. Voilà.
C'est ça,
on
c'est
lui
ça aussi.
Doit tout.
C'est ça qui bloque aussi, parce que vous essayez de trouver les causes de cette baisse de la natalité. On rappelle quand même que ça ne cesse de baisser, notamment en France, il n'y a plus d'exception française, avec les derniers chiffres qui sont parus par l'INSEE cette année, où c'est vraiment le plus bas jamais atteint, une baisse entre 2022 et 2023 de 7% des naissances en France. Donc vous essayez de comprendre les causes. Il y a d'autres causes que vous mentionnez dans ce livre-là. Vous signalez plusieurs phénomènes qui bloquent cette envie de maternité chez les femmes, où de plus en plus, et notamment aux États-Unis, on se vante d'être child free, comme on dit, vous citez l'expression, je ne veux pas d'enfant, j'en veux pas. Alors, il y a la médicalisation de la grossesse. On doit désormais renoncer à tout, alcool, cigarettes, comme elles sont loin, écrivez-vous, les années 70, où l'on pouvait vivre sa grossesse avec insouciance. Et puis, il y a une autre pression nouvelle.
C'est le moment où je dis, l'embryon devient le patron.
Ouais, voilà, c'est ça. L'embryon devient le patron, donc maintenant, on n'a plus le droit à rien pendant les 9 mois de... Il y a des médecins qui vont nous écouter qui ne vont pas être d'accord avec
j'en
ce qu'on
suis
dit.
Sûre. Voilà. Je sais d'avance.
Mais ce n'est pas grave. C'est, en tout cas, c'est vous qui le dites. Et puis, il y a une autre pression nouvelle très juste et très intéressante sur les femmes, c'est l'allaitement. Alors maintenant, c'est vrai que c'est devenu quasiment une obligation et qu'on vous regarde de manière très suspecte quand vous osez ne pas allaiter votre enfant parce que vous seriez une mauvaise mère.
Exact.
Et ça aussi, ça bloque.
Alors, ça bloque moins les Françaises que les autres, comme vous avez pu le voir. Mais c'est vrai que les femmes se sont senties obligées d'allaiter. D'ailleurs, au moment où vous allez accoucher, les infirmières passent et vous dites « Naturellement, madame, vous allez allaiter ». Il faut dire non, c'est pas si facile. Mais seulement les Françaises, et c'est pour ça qu'elles me sont très sympathiques, les Françaises, contrairement au reste des Européennes, allaitent moins longtemps que toutes les autres. Au bout de 2 mois, ça y est, la majorité reprend le biberon et s'occupe plus de la pression qui pèse sur elle. Et ça, c'est typique français. Les femmes françaises bénéficient par rapport aux autres femmes de nombreuses autres démocraties d'un passé où, justement, on faisait le distinguo entre les intérêts de la femme et les intérêts de l'enfant, de la mère. Et donc, on s'est conduit très très mal à l'égard des enfants au XVIIIe siècle. Toutes celles qui pouvaient s'en débarrassaient. Au bout de 24 heures, ils étaient baptisés et hop, ils partaient à la campagne chez des nourrices dont on perdait souvent l'adresse, c'est vous dire.
Vous prenez pas ça non plus, hein. Je voudrais rassurer ceux qui nous écoutent, vous êtes pas pour vous débarrasser de l'enfant.
Non, pas du tout, je suis pas pour
loin de là.
Le premier jour.
Le premier jour.
Oui, mais ça voulait dire que la société ne pesait pas sur les femmes comme elle pèse aujourd'hui. Donc, les femmes aujourd'hui se retrouvent au sein d'une contradiction formidable. Elles doivent être des mères parfaites, alors oui, pendant qu'elles sont enceintes, allaitées, finalement adopter l'éducation bienveillante, qui est extrêmement lourde, à mon avis, pour les femmes. Et en même temps, nous sommes dans une nouvelle phase de nos mœurs, de nos valeurs, qui d'ailleurs a été renforcée par l'expérience du Covid, qui fait que depuis peu de temps finalement, quand même peu de temps par rapport à l'histoire des femmes, nous sommes dans une époque où la priorité, c'est moi. Moi d'abord. La priorité, c'est l'épanouissement personnel. La priorité, c'est effectivement d'avoir un peu de temps pour soi, un peu de liberté pour soi en tant que femme, ou en tant qu'homme, bien sûr. Mais, et par conséquent, comment concilier tout pour le bébé et moi d'abord. Voilà. Et donc, c'est, je pense, un facteur important également, parce que quand même, de ma génération, c'est-à-dire ayant eu des enfants avant 70, nous ne posions pas la question « Est-ce que j'ai envie d'un enfant ?» Pas du tout, parce que ça semblait comme l'aboutissement du bonheur féminin. Personne ne se posait cette question, ne réfléchissait.
Et aujourd'hui, toutes les jeunes se posent cette question. Vous dites, vous parlez de rupture anthropologique sur cette question-là.
Et absolument, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le calcul des plaisirs et des peines. Qu'est-ce qu'un... Un enfant, c'est quand même 15 à 20 ans de compagnonnage avec l'enfant. Qu'est-ce qu'un enfant va m'apporter comme plaisir et comme charge, comme lourdeur, comme travail ? Et ce calcul-là, il était impensable. Impensable il y a 30 ans.
Mais il est bon ce calcul-là ou pas ?
Écoutez, bon ou mauvais, non, il est humain, c'est comme ça. C'est notre évolution individualiste, il faut bien le dire, égoïste, si vous voulez. Mais c'est comme ça, il faut faire avec.
C'est un fait, oui.
Et le fait, et c'est renforcé, c'est rendu possible justement parce que nous avons la capacité de ne pas faire d'enfants. Alors si on en fait, il faut tout assumer.
Elisabeth Badinter, vous alertez sur le risque que des pouvoirs autoritaires réduisent les droits des femmes dans les années à venir, et je vais vous citer. Il est à craindre que certains États fassent payer aux femmes la note de la dénatalité, notamment en s'appuyant sur des principes d'ordre religieux. Faute de les convaincre par diverses allocations, un gouvernement peut décider de limiter, voire de supprimer l'interruption volontaire de grossesse ou le recours à des moyens contraceptifs. Cette hypothèse, qui paraît invraisemblable aujourd'hui, peut ne plus l'être d'ici une quinzaine d'années si la chute de la natalité se poursuit au même rythme et de surcroît donc si les religions s'en mêlent. C'est fin de citation. C'est un scénario qui vous semble vraiment possible d'ici à 15 ans ?
Alors écoutez, si on m'avait dit il y a 2 ans que la plus grande démocratie du monde permettrait aux États, des États-Unis de légiférer là-dessus,
contre je ne l'aurais
contre l'avortement, c'est oui. Le cas dans 14 oui. États, je ne l'aurais jamais cru. Vraiment, je ne l'aurais jamais cru. Si on m'avait dit aussi qu'en Italie, après les années 78, quand ils ont voté l'avortement, il y avait plus de 220 000 femmes italiennes qui procédaient à des avortements, si jamais j'aurais pensé qu'aujourd'hui, faute de comment dirais-je de médecins pour avorter, ils sont, pensez qu'en Italie du Sud 80% des médecins refusent l'avortement, c'est la clause de conscience, et dans le reste de l'Italie c'est 62%. C'est-à-dire que c'est devenu très difficile d'avorter. C'est un chemin de croix pour les Italiens.
Vous n'auriez jamais imaginé ça il y a 2 ans encore.
Voilà, exactement.
Et c'est vraiment ce qui vous inquiète. Là, c'est aussi pour ça, ce livre.
Vous comprenez, moi, quand j'entends un certain nombre d'hommes politiques, je dis bien d'hommes, j'ai jamais entendu une femme dire ça. Quand j'entends des hommes politiques, comme ça s'est passé il y a quelques semaines ou quelques mois, dire à propos de porter le droit à l'avortement dans la Constitution, mais c'est impossible en France. Alors, je me dis, mais...
On n'est pas les États-Unis. Nous, on n'est pas les États-Unis. C'était ça que disaient les
oui,
adversaires.
Oui, c'était ça.
C'était ça
ne peut pas arriver en France. Ouais. Eh bien, je dis, c'est d'une légèreté incroyable. Personne ne sait ce qui va se passer. Pour pouvoir dire ça, il faudrait aussi que nous ayons une vue peut-être plus claire des désirs des femmes. Ce que montrent les femmes, ce que je viens d'expliquer, à savoir, on regarde bien avant d'eux. Comment on va faire pour que nous ne perdions pas plus d'habitants en France? Mais la France, encore, elle est toujours la première en Europe à faire des enfants. Bon, quand même, faut pas... Et à cause de nos traditions. Mais, je veux dire, comment peut-on affirmer ça ne peut pas arriver? Eh bien, si, moi, je ne suis pas d'accord.
Eh bien, si, et surtout, vous avez une solution qui repose un petit peu dans le titre du livre. Messieurs, encore un effort. Votre solution, vous pensez qu'on pourra... j'ai utilisé le terme du président de la République, réarmer démographiquement la France en partageant encore plus, en allant encore plus loin dans l'égalité. Ça m'a fait sourire de voir que vous repreniez le terme de charge mentale, qui est un terme très contemporain, mais vous le reprenez. Oui, la charge mentale repose encore, toujours, sur les femmes quand l'enfant arrive. C'est comme vous le dites, c'est-à-dire peut-être pas quand il n'y a pas d'enfant, mais ensuite c'est vraiment sur la femme que ça repose.
Oui, et non seulement charge mentale, mais je dirais aussi une fatigue physique. C'est extraordinairement fatigant d'assumer la double journée de travail, alors charge mentale, parce qu'il faut penser à tous les jours, au moindre détail de la vie de la famille, de la vie des enfants, et en même temps continuer à travailler sur son ordinateur pour certaines. C'est trop, voilà, c'est trop lourd. Et c'est d'autant plus lourd que les femmes sont en train d'atteindre peu à peu, mais plus vite, l'égalité avec les hommes professionnellement. C'est pas encore aujourd'hui, mais on voit que ça avance.
Mais c'est pas le
mais
cas,
c'est
à, la
pas le cas à la maison.
C'est pas le cas à la maison. Et, vous appelez les hommes à être plus féministes au fond.
J'appelle les hommes à être enfin égalitaires, pas égalitaires, féministes, égalitaires surtout. Je veux dire, c'est respectueux. Je veux dire de la justice qui doit régner dans un couple, enfin au sein d'un couple. Et donc, si eux ne bougent pas, ça risque de durer assez longtemps. Et donc, je voudrais quand même préciser que dans ce petit livre, je ne suis pas cruelle à l'égard des hommes. Je ne les agresse pas trop. Mais en même temps, je pense que il faut absolument qu'ils prennent conscience.
Vous dites les politiques natalistes, si à politique nataliste, elles doivent s'adresser aux femmes, mais pas seulement aux femmes, aux hommes aussi.
Je dis qu'elles, non, je dis pire que ça. Je dis qu'elles doivent s'adresser d'abord aux hommes. Les femmes font tout ce qu'elles peuvent. C'est à eux. Mais pour autant, je ne présume pas qu'il faut prendre des mesures force. La vie privée des gens, c'est aussi un lieu qu'on va respecter.
Encore un mot, Elisabeth Badinter, sur un autre sujet. Vous êtes intervenue dans le débat sur la fin de vie. Vous avez écrit une lettre au député Olivier Falorni, rapporteur à l'Assemblée nationale sur le projet de loi fin de vie. Une lettre publiée dans la Tribune dimanche qui répondait à ceux qui utilisaient, instrumentalisaient la parole et la pensée de Robert Badinter pour affirmer qu'il n'aurait pas soutenu cette loi au nom du fait qu'il était l'homme de l'abolition de la peine de mort. Vous écrivez dans cette lettre « Mon mari n'a jamais assimilé aide à mourir et peine de mort. Mon mari s'est forgé au fil des ans la conviction qu'une évolution vers une aide active à mourir était acceptable et même souhaitable dans certaines circonstances et selon des conditions précisément définies par la loi. » Fin de citation. Vous avez souligné que Robert Badinter, vous avez exprimé cet avis en 2021. Il avait évolué sur le sujet.
Il avait évolué en vérité à propos du terme euthanasie qui, en 2008, lui faisait assez peur, euthanasie. Il a évolué, effectivement, sur ses positions qui étaient plus, je dirais, qui avaient plus de recul. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il a évolué en même temps. Il s'en est ouvert à différentes personnes. Et ce qui m'a un peu gênée, pour pas dire indignée, c'est qu'on se servait d'un propos, enfin d'un témoignage dans une commission de 2008, alors que moi je savais aussi son évolution vers une position précise, positive quant à la loi. Et Monsieur Falorni m'a joint en me disant, écoutez, j'ai moi-même consulté votre mari en 2021. Pendant une heure et demie, il était d'accord avec ce projet. Et moi, personnellement, Elisabeth, j'ai participé en septembre de l'année dernière, 2023, à un entretien avec la ministre déléguée à l'époque de la Santé, Madame Le Bodo, qui était venue à la maison avec une assistante et qui a entendu elle-même, elle peut en témoigner aujourd'hui comme moi, qu'il était, il aurait voté cette loi s'il était, et c'est évident.
Donc il n'y a pas de doute.
Ah non, il n'y a pas de doute.
Donc vous dites ce matin aux adversaires de cette loi qu'ils ont le droit d'être adversaires de cette loi, mais qu'ils ne doivent pas utiliser le nom de Robert Badinter.
Exactement.
Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin.
Messieurs, encore un effort. Trois petits points. C'est le titre de votre livre, Elisabeth Badinter, publié chez Flammarion et Plomb. Merci encore d'avoir été là. Il est 8h48 et la revue de presse de Claude Askolovitch est à suivre.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde, DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pensez à covoiturer.
Mmh. C'est si bon.
Rouge des Prés.
De chez le boucher.
En boucher.
En faux filet.
En anglais.
Dans un étoilé.
Dans un troquet.
En pavé.
En chili con carne.
Grillé.
Mariné.
Rissolé.
En gelée.
Fumé.
Parfumé.
Mijoté.
Snacké.
Du Loiret.
De Vendée.
De Franche-Comté.
Et sans compter.
Chez nous, le bœuf.
C'est si bon.
Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Et oui.
La revue de presse, Claude Askolovitch.
France Inter. Le 7-10.
Et on parle, Claude, d'une inquiétude.
Qui taraudait une écrivaine et militante féministe qui avait rêvé à une société de femmes entre elles sans les hommes, mais qui se demandait aussi si la colère et la haine que les femmes devaient afficher pour ne plus vivre comme des chauves-souris, travailler comme des bêtes, mourir comme des vers, ne se retournaient pas contre les femmes, nous rendant impuissantes. Et ainsi, dans Libération, un homme me fait comprendre autrement la légendaire Monique Wittig, fondatrice du MLF, dont la radicalité comme l'inquiétude annonçait le féminisme contemporain. Et il faut lire ce texte signé Philippe Lançon, qui a lu Wittig, que l'on réédite, pour prolonger, disputer peut-être, Elisabeth Badinter, que nous venons d'écouter, et pour comprendre aussi à quel point un lecteur modèle le texte qu'il propose. Lançon est de son genre et de son âge, la soixantaine, journaliste, écrivain, lettré, sceptique, et son male gaze trouve dans Wittig de quoi atténuer la séparation des sexes qu'elle prônait. Il la trouve pertinente parce qu'elle était excellente écrivaine, elle refusait que l'écriture soit genrée, et elle disait sa reconnaissance aux écrivains d'autrefois qui avaient masqué leur homosexualité en inventant des personnages de lesbiennes. Où serais-je sans eux ? Elisabeth Badinter, qui demande aux hommes encore un effort dans son dernier livre, est en couverture du Point, qui titre sur la défiance le fossé qui s'est installé entre les hommes et les femmes. Nous parlons ici des jeunes gens, jeunes femmes qui n'ont pas 25 ans et qui regardent le monde depuis des contrées hostiles. Les garçons se radicalisent à droite, virilistes, partisans de la peine de mort, de l'expulsion des immigrés clandestins et du renvoi des navires de migrants. Les filles sont progressistes, adeptes du vegan, de l'écriture inclusive, de l'écoute des femmes victimes et veulent interdire la corrida. C'est un sondage que le Point publie qui rejoint d'autres études dont le Financial Times et sur cette antenne de Valfond, notre ami, se sont fait l'écho, car ce n'est pas seulement en France que les jeunes divergent. En Corée du Sud s'affirment des jeunes masculinistes capables d'agresser en les aspergeant de sperme les femmes, ce sexe opposé devenu l'ennemi. Qu'en écrirait Monique Wittig ? Le Point, encore lui, se souvient d'Alice Milia, qui, il y a un siècle, organisait contre l'olympisme officiel le sport féminin. Une biographie consacrée à cette femme, de le nom aurait dû être donné à la nouvelle arène de la Porte de la Chapelle, s'il n'avait pas fallu d'abord honorer un sponsor. À chaque époque, ses frustrations. Le Sud-Ouest, lui, me dit les frustrations des joueuses de rugby qui ne peuvent pas vivre de leur talent. Elles sont pourtant dévaillantes.
On parle aussi d'un chien.
Qui a aboyé quand le technicien de SFR est entré et la cliente a dit à Sofiane « Désolé, mais mon chien n'aime pas les Arabes, ne le prenez pas mal. » Et quand il a raconté cela à son supérieur, le chef lui a dit qu'il débutait Sofiane et qu'il devait se taire et travailler. Et comme il débutait vraiment, fraîchement arrivé en France, Sofiane n'a rien dit, mais désormais il parle, lui et d'autres techniciens télécoms, sous-traitants pour de grands opérateurs, d'origine étrangère, qui doivent accumuler les interventions pour vivre et donc supporter le racisme qui flotte dans ce pays. Il le raconte sur un groupe WhatsApp que Street Press en ligne nous décrit. Il y a le client qui crie « Vous les techniciens étrangers, vous êtes feignants, la porte c'est par ici, casse-toi » Le client qui vous enferme jusqu'à ce que l'intervention soit finie. La cliente qui vous lance « Tu ne parles même pas français, sale blédard » Le client qui vous dit que Zemmour a raison et que les maghrébins doivent mieux s'intégrer. La cliente qui refuse de vous serrer la main car vous prenez le pain des Français. Faut-il lier cette litanie honteuse aux envies de partir de Français musulmans que raconte le Nouvel Obs, qui analyse le livre de trois chercheurs « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes », qui raconte ces musulmans, souvent très bien diplômés, qui par milliers sont allés chercher du repos, loin du soupçon, de la méfiance, des blagues et du malaise, aux Émirats, mais aussi au Royaume-Uni, au Canada, là où on ne va pas leur demander des comptes ni des preuves d'intégration. Et à chaque vacances, chaque retour au pays natal, ils se convainquent que le vrai retour est illusoire, tant la France serait imprégnée d'une, je cite, « islamophobie d'atmosphère », terme sérieux et ironique qui détourne le djihadisme d'atmosphère de Gilles Kepel. La semaine dernière, Le Monde avait publié un article similaire. J'y ai lu un homme qui avait dû montrer une photo de sa femme en maillot de bain pour prouver qu'il n'était pas intégriste. À côté de cela, dans l'Obs encore, lisez Omar Sy, lui aussi exilé aux États-Unis, mais juste pour offrir à ses enfants une vie normale. Il dit qu'il prie, car il faut croire en Dieu plutôt que de se croire Dieu. Il dit trappe de son enfance, qui a beaucoup changé. Il s'interroge sur nos haines d'aujourd'hui. dans Le Point à nouveau, et dans un livre dialoguent les écrivains Kamel Daoud et Abnous Chalmani, qu'on lit aussi dans l'Express. Lui algérien, elle née en Iran, et tous deux dans leur regard de métèque et dans leur belle langue disent l'amour de la France telle qu'elle est qui les autorise à être des individus. Comment rassembler les regards que nous inspirons ?
Et on parle enfin d'un soldat.
Qui est beau comme un ange à la une de l'humanité, son fusil orné d'un œillet, et il est l'image de l'immense espérance qui avait pris le Portugal il y a 50 ans aujourd'hui, quand la Révolution faisait tomber la dictature. Paris Match, lui, célèbre ses 75 ans en rassemblant la bande du Splendide, l'Hermie Clavier Balasco, complété. Ah, on ne s'ennuyait pas jadis au lycée Pasteur de Neuilly quand le prof refusait que Junio et Blanc soient dans la même classe. Les écoles étaient innocentes. Enfin, dans La Croix, mais aussi sur les sites de Sud-Ouest, de Charlie Hebdo et du Figaro, on me dit qu'il faut lire, redécouvrir, découvrir l'écrivain bordelais Raymond Guérin, que Vichy avait privé du Goncourt en 1941 alors qu'il était prisonnier au Stalag. Le regard qu'il portait sur son époque brute, ses duretés, ses tendresses vont me pousser, dès que je vous quitterai, en librairie. Un de ses livres se nomme « Retour de barbarie ». Je conjure, si jamais nous y allons.
Merci Claude pour cette revue de presse. 8h54, Mathilde Serrel, un monde nouveau. Et ce matin, un monde où il en va...
Des théâtres.
Oui, des théâtres comme des croissants, pardon.
Vous connaissez le principe des sacs d'invendus à la boulangerie ? Ça se présente un peu comme une pochette surprise avec une dizaine de viennoiseries de la veille à prix très réduit. C'est un peu mou parfois. Mais franchement, tout le monde y trouve son compte, le client, le commerçant et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et comme nous sommes au 21e siècle...
Il y a une application pour ça.
La désormais célèbre Too Good To Go qui permet de trouver des paniers surprises d'invendus ici ou là. Alors pourquoi ne pas faire avec les places de théâtre comme avec les croissants ? C'est un peu ce que se sont dit quatre étudiants de 22 ans qui ont lancé ce qui s'appelle le Too Good To Go de la culture, une application de tickets théâtre invendus. Son nom, Ticket Nunc, attention, jeu de mots de latiniste, Hic et Nunc, ça veut dire
ici et maintenant.
Bien. Et en effet, on trouve des places de théâtre à moins 50% minimum hein, pour des représentations le jour même, le lendemain et jusqu'à 72 heures plus tard. Petit plus, contrairement aux viennoiseries, ni les places, ni les spectacles ne se ramollissent. Ici, au bureau Tendance et Phénomène, nous l'avons testé. Pour garder l'effet pochette surprise, je vous conseille d'activer les notifications. Sinon, il y a trois filtres de recherche possibles, par spectacle, par jour, aujourd'hui, demain ou plus tard, et par fourchette de prix, de 0 à 10 euros. Il y a des places à 1 euro, j'ai vérifié, de 10 à 20 euros et au-delà de 20 euros. Pour ce soir, il restait des places pas chères pour Dans la peau de Cyrano au théâtre Le Ranelagh à Paris. C'est pas loin de la maison de la radio. La presse de tous bords est emballée. Et moi, je sens bien la soirée team building, de l'émotion, du rire ensemble. Hic et Nunc.
Hic et Nunc. On verra, ça s'adresse à quel public justement ces places pas chères ?
Aux 64% des Français qui aimeraient se rendre davantage au théâtre. À tous ceux qui ne se l'autorisent pas, ou encore à ceux qui avaient pris goût avec le pass culture mais qui ont plus de 18 ans et maintenant pas le budget. Les créateurs de cette application parlent de lutte contre le gaspillage culturel, comme il y a de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et si ça marche pour les invendus du théâtre, ça pourrait marcher avec les invendus des concerts. 40 000 utilisateurs en 4 mois, 50 salles partenaires, mais Ticket Nunc commence à trouver son public, même si ça manque de choix. Et surtout, ça se limite à Paris. L'appli prévoit tout de même de se développer partout en France. En revanche, j'ai vérifié pour voir Aymeric Lompré, c'est râpé, forcément, c'est complet jusqu'en décembre.
Sûr,
le mieux, c'est de prendre des places gratuites offertes par le service public pour le grand dimanche soir.
Merci Mathilde, et merci pour cette transition. Charline Vanhoenacker, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Contre la violence des mineurs, Gabriel Attal propose un internat pendant les vacances. Il a accueilli les premiers jeunes dans un établissement scolaire à Nice, en compagnie d'Éric Dupond-Moretti.
Oui, et Gabriel Attal a osé dire « Alors les jeunes, vous êtes contents ?» Bah tiens, quand les moniteurs de la colonie pénitentiaire, c'est Attal et Dupond-Moretti, c'est même pas une punition, c'est un châtiment, quoi. Vous avez vu les images ou pas ? Vous avez vu ? Parce que les caméras des chaînes d'infos, elles ont bien filmé l'humiliation des jeunes en direct. Attal qui voulait lutter contre le harcèlement scolaire, moi ce que j'en ai vu, le seul jeune qui harcèle les autres, c'est Gabriel Attal. Alors il a réussi à leur soutirer à peine trois mots. Ça se voit qu'il est infoutu de gérer une classe de 25 élèves, alors qu'il est censé gérer une classe de 68 millions de Français. J'espère que les enseignants ont vu les images. J'espère. Ils ont dû savourer ça comme des petites olives à l'apéro. Là. Alors, en plus, Attal et Dupond-Moretti ont offert aux pensionnaires une veste de jogging, un surplus du SNU, sûrement, tellement c'est moche. On dirait des pyjamas. En fait, ces internats, c'est des EHPAD pour jeunes, vous voyez. Alors, même la ministre de l'Éducation, elle n'a pas voulu voir ça. Nicole Belloubet n'était pas là. Elle a réussi à supprimer les groupes de niveau. C'est pas pour créer des centres de rétention à la place. L'école est censée être un lieu d'émancipation, pas un camp de redressement, quoi. Donc, l'opération Place Nette, c'est jusque dans les collèges, en fait. Il faut préciser qu'elle cible les éléments perturbateurs au bord de la délinquance. Il y en a même un qui a osé dire au Premier ministre que Macron est méchant. Je ne sais pas si vous réalisez le degré d'insubordination de cet individu de 12 ans. D'ailleurs, c'est la dernière chose qu'il a pu dire. Après ça, il a été envoyé à Fleury-Mérogis. Les jeunes sont tellement dans le collimateur du gouvernement, limite, tu peux faire de la garde à vue uniquement parce que t'es né après 2007. Quoi. D'ailleurs, quand Attal a entendu cet ado dire « Il est méchant, Macron !» Il a failli perdre ses nerfs. Il lui a répondu « Comment ça ? Pourquoi tu dis ça ? Hein ? Pourquoi tu dis ça ?» On ne savait plus trop lequel des deux doit participer à un stage sur la gestion de la colère. Alors, pour donner envie aux jeunes d'aller à l'école, quoi de mieux que de les obliger à y passer leurs vacances ? C'est comme ici, à France Inter, on te disait « Tu aimes ton travail ?»« Ah oui, oui, j'aime beaucoup. » »« Ah bah super, comme ça tu viendras aussi le samedi et le dimanche !» Ok, alors il y a des gamins qui ne vont pas à l'école en journée, donc la solution ce serait de leur faire passer la nuit aussi. Passer la nuit sur ton lieu de travail, on sait comment ça se termine, c'est pas joli joli, tu finis à la matinale. Alors le vrai luxe quand t'es jeune, c'est de surtout pas partir en vacances. T'es allé où cet été ? Ben nulle part. Oh là là, la chance ! Puis les vacances c'est fait pour se reposer quoi, vous imaginez si on n'avait pas de coupure ? Nicolas il serait là sur son transat à commander une bière en demandant au serveur « Et cette boisson houblonnée, quel souvenir elle évoque dans le long raisonnement qui vous a poussé à passer derrière le bar. » Ce serait pénible pour tout le monde, on est d'accord ?
Oui,
d'accord. La gauche est vent debout contre cette mesure et propose à la place mais rien du tout. Ah, vous y avez cru, si ! Claude, j'ai vu dans vos yeux une lueur